Il est l'heure de retrouver en studio Bruno pour l'émission Écriture dessinée. Bonjour Bruno.
Bonjour Antoine. Aujourd'hui, c'est un hommage à Giusti Zuccato, le créateur de la librairie Alter Livre à Sauve, il y a plus de 10 ans, et il est également le co-créateur des éditions Vertige Graphique en 1987. Giusti était dans ce studio justement en février 2015, le 26 février 2015, pour la création de la librairie. Retrouvons sa voix, sa passion pour le dessin, pour l'édition, ses amitiés avec les auteurs maîtres du dessin comme Prat, Munoz, Matteotti ou JP. À tout de suite.
Écriture dessinée.
Bonjour à toutes et à tous. Antoine est en régie et je voudrais commencer par deux brèves et on retrouvera donc Giusti dans la rediffusion de cet entretien du mois de février 2015. Tout d'abord, le FSER qui, l'État a annoncé une coupe drastique de plus de 44% du fonds, qui est un soutien et qui permet donc à la pluralité radiophonique d'exister, d'avoir ces radios associatives qui sont sur les territoires, des radios locales qui permettent à l'ensemble des territoires de la France, mais où, n'importe où ils se trouvent, d'avoir une voix, d'avoir un écho de la culture, du quotidien, des situations et des particularismes locaux. Et c'est donc une atteinte sans précédent. Il y avait déjà eu quelques mois auparavant une tentative et puis qui avait été abandonnée. Mais là, le gouvernement fait une nouvelle attaque encore plus menaçante puisque cette suppression, cette diminution énorme du budget va entraîner la quasi-disparition de toutes les radios associatives et de ce qui fait la pluralité et la force de ce médium radiophonique. Je ne veux pas forcer le trait et faire du catastrophisme, mais si on regarde bien les choses dans les détails, il y a vraiment une impossibilité de pouvoir ne serait-ce que embaucher des salariés. Et à Radio Escapade, il y a 3 salariés et c'est indispensable, essentiel au fonctionnement de la radio. Et c'est ce qui est important de préserver. Au-delà de la partie radio, eh bien c'est une attaque sur le front de l'éducation sociale et solidaire qui va aussi avoir lieu. Et donc, tout ça pour, soi-disant, faire des économies et éponger une dette souveraine, alors que, eh bien, demandons quand même à ceux qui ont les moyens de le faire, puisque depuis des années où on ne s'oriente pas vers une taxation des très hauts patrimoines, eh bien, la dette s'est aggravée. Donc, pensez à suivre cette actualité, puisque les instances nationales des radios associatives œuvrent justement auprès des députés, auprès des sénateurs, ont des rendez-vous avec l'État pour revenir en arrière sur cette décision absurde. Les Shadocks. Cette note finale est ce qu'on veut absolument éviter. Une autre brève importante, c'est l'exposition de Brecht Evans à Cherbourg pour la 12e biennale du 9e art. Elle a lieu du 21 juin au 16 novembre 2025. Donc vous pouvez encore y aller. Oui, Cherbourg, c'est loin, d'accord. Mais d'un autre côté, cette exposition a lieu au musée Thomas Henry, qui se trouve dans le Casar à Cherbourg. C'est un lieu d'art contemporain. L'exposition est basé et s'intitule Le repère de la Méduse, qui est une série, une histoire en plusieurs volumes de Brecht Evans. Le premier est paru, le deuxième bientôt. Et donc, un des points forts de cette démarche, c'est ce passage pour un certain nombre d'auteurs contemporains de partir de l'estampe, grand format, et de l'intégrer dans une succession narrative, comme le permet ce travail de dessinateur. Donc il y a tout un champ qui s'ouvre pour le dessin contemporain et la bande dessinée contemporaine. Cette exposition marque vraiment l'intérêt, l'ouverture des musées d'art contemporain pour tout ce qui se passe graphiquement et narrativement au niveau de la bande dessinée. Il y a un catalogue qui a été publié par les éditions Actes Sud. Les 96 pages de ce catalogue sont au prix de 32 € et s'intitulent « Le repère de la Méduse ». Eh bien, continuons. Allez, on va se faire encore un petit coup de Shadok, si c'est possible, Antoine, parce que je l'avais pas noté. Alors, avant de passer à cet entretien avec Giusti, qui va nous permettre vraiment de découvrir un catalogue d'une maison d'édition indépendante et comment il s'est constitué, je voudrais évoquer deux livres sur la résistance. Le premier s'appelle « Malgré nous » de Thierry Gloris et de Marie Terret. Et le deuxième, c'est le quatrième tome de Madeleine Résistante. Alors, « Malgré nous », c'est un terme qui permet de désigner ces Alsaciens qui, avec le jeu des conflits, avec les différentes situations issues des conflits, se retrouvent à changer de nationalité. Et lorsque l'Allemagne nazie a envahi la France, commençant par l'Alsace, un certain nombre d'Alsaciens ont été enrôlés, notamment dans la Waffen-SS. Et c'est vraiment malgré eux. Alors, on a l'intégrale de ces quatre tomes regroupés sous le terme « Malgré nous », avec donc à chaque fois des développements importants, toujours autour de la figure de Louis Fischer, qui a été enrôlé dans la Waffen-SS et dont on va suivre le parcours tout au long de ce récit. Et il y a d'autres personnages importants, ses parents, mais surtout ses deux sœurs, Jeanne et Mathilde. Donc en 1941, Louis Fischer est un étudiant, amoureux, frivole, en un mot jeune, à mille lieues de la politique. Cependant, né à l'est de la France, à l'entre-deux-guerres, comme tout Alsacien, Louis doit prouver au Reich sa légitimité alors que l'occupation allemande ravive les traumatismes qu'endure cette région depuis longtemps et applique férocement le principe de guerre totale. Enrôlé dans la Waffen-SS, malgré lui, Louis Ludwig espère ne pas devoir se battre contre les siens. Thierry Gloris est un historien, il a donc obtenu un DEA d'histoire, il est scénariste pour la bande dessinée avec cet ancrage dans l'histoire, et donc il a choisi de partir de cette histoire familiale qui lui a été racontée par sa grand-mère, et il a créé des personnages de fiction qui, pour lui, permettent de mettre pleinement en valeur la situation de ces malgré nous. Et sur l'ensemble des 200 pages de ce livre, on a vraiment le déroulé, le développement de cet engrenage dans lequel Louis va se retrouver, et il va vraiment devoir batailler, devoir affronter les Russes et aux côtés des nazis qu'il rejetait. Il y a des situations d'évitement, des conflits, des moments où il y a une profonde mise en danger pour être fidèle à cette opposition et cette résistance qu'il avait toujours eue vis-à-vis du nazisme. Les personnages de Thierry Gloris sont très crédibles et il y a vraiment un travail d'écriture, un travail de dialogue sur cette profondeur et cette psychologie des personnages pour qu'ils soient au plus près d'une réalité vraisemblable. Il y a bien sûr ces ancrages historiques qui lui ont permis l'histoire familiale et sa connaissance des différentes situations, mais tous les apports de la fiction permettent vraiment de pleinement la mettre en œuvre. Et puis, il y a le dessin et les aquarelles de la dessinatrice Marie Terret. Alors c'est un dessin en couleur directe, c'est-à-dire que les traits de contour sont une couleur un peu plus foncée d'une des composantes de l'image. Ça donne beaucoup de douceur à cette mise en image. Et les aquarelles de Marie Terret vont jouer sur tous les éléments pour qu'on soit au plus près de ces scènes, au plus près des situations, qu'on soit sur le front, qu'on soit dans les amphithéâtres où en tant qu'étudiant il y avait la propagande nazie qui arrivait à l'université, qu'on soit dans des milieux plus intimes comme celui du foyer familial. Les lumières vont changer, vont permettre d'avoir toujours ce rythme dans l'image qui donne beaucoup de force à l'ensemble de cette narration. Il y a un travail de précision où Marie Terret relève un certain nombre de difficultés graphiques pour être toujours au plus juste et être vraiment dans cette succession et dans cette fluidité dans la lecture. Il y a un travail de mise en scène qui est basé sur un trois bandes avec parfois sur un strip d'image des cases horizontales qui permettent d'avoir un rapprochement. C'est parfois un peu excessif, c'est-à-dire que ces cases horizontales qui fractionnent le strip vont apporter un peu plus d'éloignement au récit, alors qu'il y a une régularité de base qui fait souvent merveille. C'est un travail d'une très grande précision, d'une grande efficacité à tous les niveaux, dans la narration elle-même, dans les dialogues, les récitatifs utilisés, qui donne une intimité au récit, et puis cette mise en image de Marie Terret qui signe là 200 pages tout à fait convaincantes. Malgré nous, l'intégrale, les 200 pages publiées par les éditions, par la collection Cadran des éditions Soleil, et c'est au prix de 39,50€, 40€ on va dire, ce qui est un peu moins que 4 albums classiques. Et donc cet album a été imprimé en France. La virgule cette fois c'est les moustiques. Poursuivons avec Madeleine Résistante, tome 4. Alors, j'ai présenté chaque titre. Il y a eu un entretien avec Jean-David Morvan, un autre avec Dominique Bertaille. Et donc, c'est un récit sur une femme. Elle s'appelle Madeleine, Madeleine Riffaut. Elle a été résistante. Et d'ailleurs, ce tome 4 s'appelle L'ange exterminateur. Et C'est une femme exceptionnelle à plus d'un titre, notamment par son parcours qui a été raconté tout au long de ses 4 tomes dans la Résistance. Et elle a fait preuve d'une exemplarité, d'un courage inhabituel, d'une puissance de caractère, d'une conviction absolument inébranlable. Et elle surprenait d'ailleurs absolument tout le monde. Mais après la guerre, elle a continué à œuvrer avec cette même intensité. Elle est devenue reporter de guerre. Et puis, plus tard, elle s'est engagée, sans se faire connaître, dans les hôpitaux pour être aux côtés des aides-soignantes. Et elle en a fait un livre sur leurs conditions de travail intitulé « Linge de nuit ». Et qui a été une révélation où elle disait « Attention, l'hôpital est en train de sombrer ». Cette femme de caractère est décédée en 2024 et il y a eu des hommages absolument saisissants. Et notamment, ce livre, ce tome 4, contient une oraison funèbre d'Elisabeth Hefner Aubrac, fille des époux Aubrac, Raymond et Lucie. Et c'est vraiment un témoignage qui rend compte aussi pleinement de cette vie remarquable de Madeleine Riffaut. Elle dit... parce qu'elle était aussi poète, elle scandait dans un de ses poèmes la peur, peur des bottes, peur des clés, peur des ports, des portes, peur des pièges. Et elle en avait aussi bien d'autres, et pourtant elle n'a jamais failli. Cette introduction pour présenter ce livre qui a une puissance portée par Jean-David Morvan et Dominique Bertaille, qui ont recueilli les témoignages de Madeleine Riffaut. Donc on a vraiment la mise en œuvre de témoignages, d'entretiens faits avec Madeleine Riffaut elle-même, et qui permet d'avoir une précision dans le récit inhabituelle dans ce genre d'histoire. Souvent on part de témoignages mais rapportés, souvent partiels, et qui ne concernent pas forcément toute la traversée de la guerre, ce qui a été le cas avec les 4 tomes de Madeleine Riffaut, Résistante. Elle a donc joué vraiment pleinement le jeu de ce témoignage, sachant que ça allait être mis en image et en bande dessinée par Jean-David Morvan et Dominique Bertaille. Et donc on a toute cette précision qu'elle va apporter, non seulement dans les faits, dans les situations, mais aussi dans les dialogues, dans les récitatifs qui vont évoquer ses propres pensées de l'époque. Et donc, on y est pleinement. On est vraiment aux côtés de Madeleine Riffaut tout au long de cette Seconde Guerre mondiale. Dans ce tome 4, nous sommes le 24 août 1944 et Madeleine, alias Rainer, et ses camarades, FFI de la Saint-Just, sont brutalement tirés de leur sommeil par un milicien lâchement embusqué sur les toits parisiens. Une fillette innocente tombe sous les balles. Folle de rage, Madeleine se lance elle-même sur les toits pour rendre justice. Elle reçoit ensuite une mission inattendue, éliminer un traître dont la réputation de résistant est pourtant intacte au sein des FFI. Une mission d'ange exterminateur si délicate que Madeleine Riffaut, disparue en 2024, gardera jusqu'au bout le secret de l'identité du traître, même face à Jean-David Morvan et Dominique Bertaille. Ces événements racontés vont arriver jusqu'à la libération de Paris, où la Nueve, les républicains espagnols avaient aussi été très grandement présents. On parlait moins de cette action des résistants français, et là, c'est vraiment le cas. Ce qui est important, c'est que Madeleine Riffaut donne une nécessité d'évoquer tous les éléments de la guerre. Il y a par exemple des arrestations de miliciens, d'Allemands SS, d'Allemands nazis, et comment la foule se rue sur eux et essaye de les lyncher, et comment Madeleine Riffaut va empêcher ce type d'action, va aussi les exécuter proprement, pour éviter qu'il y ait quelque chose qui dégénère et qui salisse profondément la démarche de ces résistants. Et puis il y a le dessin et la mise en scène de Dominique Bertaille, qui est un auteur qui dessine par plaisir, qui s'est retrouvé sous le charme de Madeleine Riffaut, qui a vraiment voulu, après avoir écouté ses écrits, mettre en image ses histoires, son parcours. Il a vu le portrait que Pablo Picasso a fait de Madeleine Riffaut, qui a été reproduit dans un cahier complémentaire à cette série et qui est étonnant, profond, où on la sent profondément inquiète et qui s'est pleinement réapproprié le personnage. Il y a une qualité de dessin, une qualité de mise en scène qui est basée sur une régularité des hauteurs de bandes d'images, comme si on avait vraiment un écran qui avait quelques variations, mais jamais dans la hauteur. Et une capacité aussi d'utiliser les gaufriers, ces images régulières qui vont composer une page, mais qui vont vivre par l'intérieur des plans, avec parfois des variations de ces grandes images larges de la page et hautes comme deux strips, et qui donnent aussi une contemplation. L'exigence dans le dessin des décors et des personnages, dans leur gestuelle, dans leur façon d'être, dans la capacité à donner à chaque mouvement sa vraisemblance. On est à chaque fois dans une retranscription, une représentation tout à fait exacte de ce que pouvait être cette scène. Il y a un travail au La Vie Bleue qui est aussi remarquable et qui donne ce côté historique à cette histoire. C'est une très grande lecture qui est vraiment d'une belle lisibilité et fluidité, où on peut s'arrêter sur chaque case et voir comment Dominique Bertaille a cherché à mettre en image ses récits et cette vie de Madeleine Riffaut. C'est donc un quatrième tome qui finit cette Seconde Guerre mondiale, mais il y a d'autres résistances de Madeleine Riffaut que Duchamp, David Morvan et Dominique Bertaille ont enregistrées, et certainement qu'on va avoir d'autres recueils sur des périodes plus récentes. Madeleine, résistante, tome 4, L'ange exterminateur, est écrit par Madeleine Riffaut et Jean-David Morvan, mis en image et en scène par Dominique Bertaille. Les 128 pages de ce récit sont publiées par les éditions Air Libre, donc collection des éditions Dupuis, et leur prix est de 25 €. Le livre a été imprimé en Belgique. Quelques notes de musique de Dave Burrell avant de retrouver Giusti Zuccato. Giustizucato de Vertige Graphique a créé à Sauve la librairie Alter Livre. Il pourrait être surprenant que ce soit une librairie généraliste. Si le fonds bande dessinée de la librairie reste exceptionnel, l'ouverture à d'autres fonds comme l'histoire, la sociologie, la littérature et d'autres reflète l'ouverture d'esprit de Giusti. Il rappelle que la bande dessinée, le dessin, est un support comme un autre, une langue comme une autre, à considérer au même titre que les autres domaines de l'écriture. Vertige Graphique est une maison d'édition au catalogue exceptionnel. Je ne citerai simplement les éditions des 10 volumes de Jen d'Hiroshima, qui ont donné donc 5 intégrales. L'édition de Sin City de Frank Miller ou de Palestine de Joe Sacco. Beaucoup d'éditeurs indépendants rêveraient d'avoir un tel catalogue, d'une telle importance dans le 9e art. Giusti est décédé le 12 septembre 2025 et je souhaitais vous faire entendre un entretien qu'on avait enregistré dans le studio de Radio Escapade où il revenait sur son parcours d'éditeur, sur comment les éditions Vertige Graphique avaient constitué ce catalogue exceptionnel. On se retrouve tout à l'heure.
On était trois copains très liés, très passionnés par tout ce qui était, disons, les papiers imprimés, l'expression graphique, aussi bien texte qu'en image, donc artistique, graphique et des contenus, disons. Et on a remarqué, en débarquant en France, en s'installant en France dans les années 80, qu'il y avait des auteurs qui pour nous étaient cultes, disons, qui avaient participé à notre formation culturelle, complètement absent de la scène française, disons. C'est comme ça qu'on a commencé notamment à travailler avec des Argentins tels que Breccia et Muñoz. Muñoz était déjà un peu connu, mais à travers ses histoires, disons, les plus grand public, mais pas du tout comme auteur talentueux difficile, si on peut dire.
Alors, donc, démarre très vite, et ça montre aussi, je pense, c'est important de le souligner, la relation au texte illustré. Donc, c'est pas forcément de la bande dessinée. Il y a, dès 93, la publication du livre de Pratt avec Rimbaud, avec Kipling, du Moebius qui illustre Villon. Alors, on est plus que dans de l'illustration, parce que on sort des schémas classiques du texte illustré comme il était sur la première moitié du XXe siècle.
Tout à fait. Si tu veux, au début, on se donnait pas des limites. On voulait pas faire forcément une maison d'édition de bandes dessinées. D'ailleurs, on a commencé en faisant plutôt des sérigraphies, des cartes postales, des portfolios qui à l'époque étaient très, très à la mode. Et très vite, on a vu que les auteurs qu'on connaissait bien, étaient passionnés par la littérature. Ils se limitaient pas du tout au langage du strip, de la planche, de la bande dessinée, comme on l'entend classiquement. C'est pour ça qu'en connaissant aussi Hugo Pratt, il a accepté tout de suite la proposition qu'on lui a faite de s'amuser avec nous à illustrer des textes qu'il aimait. Il faut dire que Pratt, ça s'est toujours bien vendu, et grâce à ce qu'on gagnait avec lui, on a pu faire tous les autres bouquins qui étaient presque toujours à perte. Voilà, c'est comme ça qu'on a démarré, si tu veux.
Il y a quelques moments très forts, je dirais Giusacco, par exemple, Palestine.
Giusacco, voilà, ça vient assez rapidement, mais on est déjà un peu formé, disons, on a déjà commencé à éditer des livres. Avant d'arriver à Giusacco, on a fait cette collection de livres illustrés, et notamment on a fait un des bouquins de Lorenzo Mattotti, en époque où il était totalement connu. Il avait édité un seul album aux Humanoïdes à l'époque. Et donc, on commence à s'intéresser à découvrir la bande dessinée américaine, une nouvelle génération de bande dessinée, qui aussi était presque en cours en France. Et on découvre Giusacco avec ses reportages sur la Palestine, qui nous touche particulièrement d'un point de vue politique, parce que sans être 100% pro-palestinien, disons, on était très sensible à cette cause et à cette affaire, à cette situation. Et ça nous a semblé une très belle façon de démontrer que la bande dessinée est un médium comme tous les autres, qu'il y a des choses pour des gens de 7 à 77 ans, c'est quoi qu'on dit.
Ouais, même si maintenant, vu le vieillissement de la population, on peut aller largement au-delà, j'espère. Être éditeur à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la diffusion, à la visibilité dans les librairies, à la relation avec les auteurs, aux droits par exemple? Est-ce que vous vous sentiez déjà pleinement éditeur ou il manquait encore quelques auteurs un peu phares pour votre fond?
Plus que les auteurs phares, il nous manquait encore un peu d'expérience. On tâtonnait, on apprenait, on découvrait toutes les facettes du métier. Et surtout, on découvrait aussi les marchés du livre, comme il était, disons, comme il s'est présenté en France. Notamment, par exemple, à l'époque, à part les grands succès de Spiegelman avec Maus, tous les bandes dessinées avaient les mêmes formats. C'était d'un format 4 ou un peu plus grand, toujours, presque toujours cartonné. Le format aujourd'hui devenu courant, qu'on appelle celui de roman graphique, n'existait pas. D'ailleurs, quand on commence avec Palestine et d'autres titres de ce style-là, dans ce format-là, les libraires n'en voulaient pas. Palestine de Giosacco, on a commencé, la première fois, on en a vendu 300 exemplaires. C'était une catastrophe, parce que les points d'équilibre étaient à 1500, c'était relativement bas, mais 300, c'était vraiment... Il fallait aller encore une fois demander à Pratt de nous laisser faire une sérigraphie pour payer les dettes.
Alors, comment s'est passé le point de bascule vers voilà, justement cette reconnaissance du roman graphique ou du reportage dessiné?
Le point de bascule s'est passé plus ou moins dans les mêmes années, avec un livre que d'ailleurs je vois que tu as apporté. C'est un très vieil, c'est la première édition de 93 ou 14, si j'ai bonne mémoire, de Sin City. Sin City, donc, ça a été un des grands succès de Vertige. À l'époque, c'est un auteur très connu parce qu'il était le dessinateur de Robocop et d'autres super-héros très vendus. Et Frank Miller avait dessiné Sin City pour s'amuser. Tous les grands éditeurs en France voulaient le traduire et l'acheter, mais tous les grands éditeurs voulaient absolument le faire en grand format, à 4 et cartonné. Et donc, Miller disait non, soit c'est comme ça, soit c'est rien. Nous, grâce à, disons, un réseau de copains, on a eu un contact direct, on a dit « nous, on veut le faire tel quel ». Il a dit oui tout de suite. Ça s'est passé tout bêtement comme ça, les grands éditeurs n'en revenaient pas.
Ça fait rêver, ça, quand même.
Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu presque impossible d'avoir encore des occasions de plomb pareil. Mais dans les années 90, c'était
alors,
vierge.
Sur Sin City, il y a eu de la coédition. Rackham était présent à quel niveau avec eux? Parce que maintenant, c'est eux qui ont la...
Disons, Rackham, à l'époque, c'était Alain David et Michel. Alain David, qui aujourd'hui travaille à Futuropolis. Et c'était lui qui avait... D'abord, il avait du goût. C'était un bon découvreur des bandes dessinées américaines. Et il avait un contact à travers... un dessinateur très copain de Frank Miller, Georges... Non, Jean Trou, bon. Un auteur américain qui vit à Paris, qui nous a fait l'intermédiaire.
D'accord.
Et donc, il n'avait pas les moyens de l'éditer, c'est comme ça qu'on l'a coédité ensemble.
D'accord. Et donc, parce que c'est plus... Maintenant, il est chez Rackham officiellement.
Oui, après, il y a eu plein de changements dans les années 2000 entre associés, sociétés, les grands amours et les grands divorces, et donc dans les partages, disons, des biens.
Donc, Sin City marque effectivement un moment très fort, parce que c'est devenu une œuvre de référence tant cinématographique qu'au niveau de la bande dessinée. L'œuvre de Frank Miller est sur ce fondement que tout le monde connaît et qui est quasi universel, et qui est en plus une œuvre tout à fait remarquable, si c'était son amusement. Ça mériterait quelques discussions avec l'auteur lui-même.
C'est qu'on a su par échange de courriers, disons, c'était vraiment qu'il le faisait pour s'amuser. D'ailleurs, d'un point de vue graphique, il correspond pas du tout à ce qu'il fait, disons, pour bien gagner sa vie au départ. Et il s'est trouvé dommage, justement, aux auteurs que nous on aimait, tels que Breccia, Muñoz ou Prat, ils sont vraiment des références là-dedans.
Alors, pour finir cette première exploration du fond, du travail d'éditeur, de ces étapes phares, donc il y a l'édition d'essai sur la bande dessinée, il y a les deux volumes de Will Eisner, où à partir de ces bandes dessinées, il théorise et ses propos sont tout à fait intéressants. Puis il y a L'Art Invisible de Scott McCloud, qui est là aussi une référence sur la théorie de la bande dessinée. Comment s'est fait cette édition-là de L'Art Invisible?
Voilà, L'Art Invisible, c'est un volume fait Alain David, par exemple, qui l'a déniché. Quand il nous l'a montré, on a trouvé ça passionnant. On était très, très indécis. Faut-il le faire? Faut pas le faire? Il est très américain. Est-ce que ça va parler aux Français? Mais finalement, c'était vraiment une belle manière de faire un essai, un vrai essai, dans une forme qui est la forme de l'art séquentiel, la bande dessinée.
Voilà, un essai sur la bande dessinée. En bande dessinée. Alors là aussi, on parlait des 300 exemplaires tout à l'heure vendus de Palestine.
C'était pas loin, on a démarré à 600.
Et pourtant, aujourd'hui, c'est devenu une référence que tout le monde cherche à des prix et même déraisonnables. Mais bon, s'il y a des collectionneurs, ça intéresse.
Oui, maintenant, il est passé chez un grand éditeur, Delcourt. Il faut savoir que souvent, les contrats avec les auteurs américains, ça passe par agence, et c'est des licences qui durent un temps, 5-7 ans, c'est long, et une fois terminée la période, ils sont remis aux enchères. Donc les grands arrivent et mettent un zéro de plus.
Thank you.
J'essaye sur Radio Escapade, dans l'émission, d'évoquer très régulièrement la liberté d'écriture pour les auteurs. C'est difficile c'est plus rare de pouvoir parler de celle d'éditer, la liberté d'éditer. Et ce qui est tout à fait caractéristique dans le catalogue de Vertige Graphique, c'est qu'on sent à tout moment cette liberté d'éditer. On a évoqué les textes illustrés, on a évoqué les comics américains, la relation par exemple avec Frank Miller, les essais. Et puis on retrouve quelques années plus tard donc un événement, c'est la publication de Genndy Hiroshima et de Akazawa. Et comment ça s'est passé? Parce que ça, c'est quand même un événement dans le monde de la bande dessinée et dans le monde de Vertige Graphique.
Tout à fait. Bah, quelque part, c'est un peu les mêmes fils conducteurs qui fait un peu l'histoire de Vertige et du catalogue qu'on a pu produire en presque 30 ans. Disons, Gain, par exemple, je l'ai connu dans sa version anglaise parce que à un moment on faisait de la distribution et donc on en importait, on en vendait pas mal. Ça n'arrêtait pas de me dire qu'est-ce que c'est cette bande dessinée horrible que je peux pas regarder, que j'ai envie d'éloigner de moi. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit, mais non, Justine, tu dois faire un effort parce que l'histoire est tellement intéressante que tu vas pas pouvoir la lâcher. En plus, j'apprends que Art Spiegelman revendique notamment que c'est en lisant Genndy Hiroshima qu'il s'est convaincu qu'il devait dessiner Maus. C'est en lisant Genndy Hiroshima qu'il a eu la motivation de faire sa BD à succès mondial, Maus.
Alors, bon, il y a l'idée, mais maintenant,
du coup,
il faut l'éditer.
À l'époque, voilà, il y avait déjà et les Humano et Albin Michel qui avaient fait un coup d'essai en faisant que les premiers volumes. Ça avait vraiment tellement mal marché qu'ils avaient arrêté aussitôt. Mais je me suis dit, qu'à cela ne tienne, il faut y aller. Aujourd'hui, on peut essayer de proposer des choses engagées, difficiles, qui ont du contenu. Du coup, on a pris contact pour les droits à travers des Américains, une société américaine. Et les Japonais ont été ravis d'avoir finalement quelqu'un qui voulait y aller, qui s'engageait. D'ailleurs, on a commencé en 2003, on est les seuls hors Japon à avoir édité les 10 volumes. Dans tous les autres pays, États-Unis, Allemagne, Brésil ou Italie, où il a été édité, tout le monde s'est arrêté au 4e, par exemple.
Et vous étiez déjà convaincu que vous feriez les 10 ou il y avait...
Non, on l'espérait. On a vu que c'était faisable, même si effectivement les premiers 4 volumes, c'est les plus, comment dire, prenants, parce que c'est d'abord l'histoire d'un gamin qui est en survivant à la bombe atomique, c'est son histoire à l'auteur. C'est en survivant parce qu'il était aux toilettes de son appartement, tout était fermé. Il a vu l'éclair, il s'est sauvé grâce à ça. Il avait même pas 10 ans, 8 ans, je crois. Et après, il sort et il découvre cette chose terrible qui est la ville détruite, des morts partout, des bandes de gamins affamés qui circulent. Et donc, Genndy Hiroshima, c'est aussi l'histoire un peu de l'année avant la bombe et après de la survie de toute une population, des survivants, des Américains qui arrivent, de l'occupation et de toute cette période, disons, où le Japon était occupé par l'armée américaine. Et qu'il y a cette reconstruction, disons, voilà, donc, historiquement, c'est vraiment...
Donc, Justi Zucato, vous êtes éditeur donc, de Vertige Graphique, on parle de Genndy Hiroshima, de Keiji Nakazawa. À quel moment vous sentez vraiment que ça devient une œuvre phare? Est-ce qu'il y a déjà, dans la lecture de... préalable, que fait n'importe quel éditeur? Est-ce qu'il y a déjà ce sentiment d'être face à une œuvre d'ampleur? Et après, comment ça se concrétise aujourd'hui dans votre catalogue?
Disons, c'est devenu un des titres qui tournent tous les temps, disons. Ce qui devient de plus en plus rare dans un catalogue, avoir des vieux titres qui continuent à se vendre, d'un côté. De l'autre, on a très rapidement vu qu'il y avait avec ça un public très jeune, qu'on ne touchait pas avant avec les autres bouquins qu'on éditait. et qui était en très bonne forme d'essayer d'inventer une passerelle entre public et âge différentes et surtout d'amener plus facilement un public jeune en bande dessinée, disons, qui est du contenu, qui ne soit pas seulement de l'aventure et du divertissement. Aujourd'hui, j'en suis très fier, aussi parce que il y a plein de lycées en France qui l'ont adopté comme manuel d'histoire. Et donc, on a régulièrement des très bonnes commandes, parce qu'ils sont commandés un exemplaire pour chaque étudiant, souvent. Et donc, voilà, ça fait que ce livre est devenu quelque chose de formateur.
Ce qui est une information de taille. Alors, poursuivons cette exploration. Il y a là aussi une œuvre, alors qui est sur un thème proche, c'est l'Éternaute. C'est la publication de l'Éternaute, donc d'abord en volume séparé, et puis on a le recueil de l'intégrale. Donc l'Éternaute, c'est un récit d'Hector Oesterheld, mis en image par Francisco Solano Lopez. Donc nous sommes chez des auteurs argentins. Le récit se passe en Argentine, et là aussi, il est question de survie, si ce n'est que l'origine du cataclysme est passée sous silence, et on est tout de suite dans ce moment de l'après et qui est remarquablement écrit par Oesterheld, puisqu'on est dans une sorte d'intimité et de précision dès les premières cases, et puis la qualité de la mise en image de Francisco Solano Lopez. Alors là aussi, c'est un livre dont on découvre la suite, donc l'Éternaute, le retour. Alors cette fois sur un scénario de Pablo Mezzecchi. Donc là aussi, c'est une œuvre phare pour Vertige.
Ça l'est devenu, oui. Depuis toujours, je voulais le faire, mais je voulais bien le faire. En Italie, il était publié, donc j'ai le lu quand j'étais ado. Il y avait même une revue de bande dessinée mensuelle qui s'appelait L'Éternaute. Et donc, j'ai trouvé ça passionnant. En France, c'était totalement connu. Il y avait juste une fanzine qui avait publié quelques planches dans les années 80. Mais je voulais bien les faire parce que toutes les éditions existantes étaient vraiment de très mauvaise qualité, comme c'était des photocopies, qu'à la fin, tout est gras, on voit plus rien dans les dessins, quoi. Et sachant que j'avais des pistes pour retrouver les originaux, que l'auteur avait perdu dans la faillite d'un éditeur dans les années 70, j'ai pu remonter les pistes et trouver les collectionneurs, ou un certain nombre, qui avaient les planches. Et donc, j'en ai eu pour 3 ans de recherche. Après un moment, j'ai dû arrêter, parce que sinon, c'était sans fin. J'ai retrouvé les 3/4 des planches originales. Et donc, j'ai dû convaincre ces collectionneurs, qui souvent considèrent ça leur propre trésor, ils ne les montraient à personne, c'est que pour eux, de me les laisser scanner. Donc, je me suis baladé avec un portable et un scanner, et j'allais chez eux, parce qu'il ne me les prêtait pas. Il m'a fallu 3 ans, et donc à partir de là, on a pu reconstituer une version vraiment présentable, où même le travail graphique ressort avec ce qu'on lui devait, disons.
Et il y a des collectionneurs qui n'ont pas joué le jeu?
Il y en a certains qui ont refusé, oui, parce qu'ils s'en fichaient complètement de l'objet livre. Eux, ce qui les intéresse, c'est l'original, en tant que collectionneur, en tant que propriétaire. Et donc, ils m'ont refusé l'accès. J'ai même proposé de les payer, bon, pas de grosses sommes, mais des défraiements, mais rien à faire. Donc là, on a dû renoncer sur certaines.
Parce que l'édition est plus qu'acceptable, parce que on s'immerge complètement et très vite dans l'histoire. Il faut vraiment imaginer, je pense, une différence d'écriture assez radicale avec ce qu'on peut faire dans les pays francophones, où là, la volonté d'être précis à tout moment du récit, d'être au plus proche des personnages, et le dessin de Solano Lopez est vraiment cadré très près, on est proche des visages, des regards, et il y a un lien quand même, puisque c'est la même thématique que Gaine.
Oui, Mais disons, la thématique, là, c'est... Osterheld était un très grand scénariste, il était aussi éditeur à l'époque. Et il a, c'est lui qui a scénarisé plein de choses, plein d'œuvres d'Hugo Pratt avant qu'il fasse Corto Maltese, oui, notamment Serge Ankirk, Ernie Pike, parmi d'autres. Et c'était un très bon romancier qui avait décidé de mettre son art, sa capacité d'écrire en image, parce qu'il trouvait que les médiums étaient bons et importants. Et souvent, il mettait ses personnages en situation Robinson, disons.
D'accord.
Des gens totalement normaux, complètement normaux, mais en situation exceptionnelle. Voyons qu'est-ce que ça va donner. Voyons l'humanité qui en ressort. Voyons comment des gens simples peuvent s'en sortir face à des problématiques apparemment impossibles à affronter. L'Éternaute, c'est un groupe d'amis qui se retrouvent tous les jeudis soirs à jouer à cartes. Et c'est une invasion extraterrestre qui commence avec une neige mortelle qui touche tous les humains qui sont en contact, qui comprennent ça et qui comprennent très vite en regardant la roue, disons, et qu'ils comprennent qu'il faut se protéger. C'est comme ça que, vu que celui qui hébergeait la partie des cartes était un bon bricoleur, il se fabrique la première combinaison. Et que l'Éternaute peut commencer à sortir, voilà. Après, c'est toute une saga qui raconte la résistance, les extraterrestres, l'effet que dans la résistance, comme d'habitude, il y a la partie de l'armée qui n'est pas morte et qui, comment dire, joue son rôle d'armée, donc prend le pouvoir et oblige les civils à s'adapter aux façons de l'armée de résister. Voilà, il y a...
Alors, en Argentine, l'Éternaute, c'est devenu un symbole, puisqu'on a des graffitis sur les murs à Buenos Aires.
Buenos Aires, mais pas seulement, à Rosario aussi, dans d'autres villes.
Où on va voir le dessin de la silhouette de l'Éternaute, et puis des commentaires. C'est donc vraiment une réalité, ça.
C'est une réalité. Moi, j'ai été en 2007 en Argentine, et j'y croyais pas, je croyais que c'était comme une légende urbaine, comme on dit maintenant. Mais en me baladant dans Buenos Aires, j'en ai vu moi-même plusieurs, que d'ailleurs j'ai photographiés. Et certains, on les a reproduits dans les livres. Et c'est vrai qu'il est utilisé souvent par tous les mouvements altermondialistes ou de résistance. Il faut savoir qu'en Argentine, aussi dans les années 2000, il y a eu une phase de crise très, très importante. Il y a eu 5 ou 6 présidents qui ont changé dans l'espace de 3 mois, avant que l'Argentine fasse faillite et que reprenne après avec les Kirchner un cours plus normal, disons. Et donc, c'est devenu un symbole de beaucoup de mouvements.
À Vertige Graphique, je pense qu'il est important aussi de mentionner JP, qui a maintenant une œuvre suivie par d'autres grands éditeurs, mais là aussi il y a eu quelques étapes essentielles dans la pour faire découvrir JP au public francophone, et vous avez amené notamment Les Innocents, qui est un chef-d'œuvre de narration où les variations du trait donnent un sens très fort au récit. Et il y a aussi notamment dans Les Innocents un début où une conversation entre un oncle et son neveu se passe dans une voiture. Alors c'est une prouesse pour un auteur de bande dessinée, parce que l'espace est quand même très confiné. Et là aussi, vous avez eu un sens éditorial assez exceptionnel. Alors, comment ça s'est passé avec JP et aujourd'hui, donc, il n'y a plus de JP chez Vertige.
Malheureusement. Bah, ça, c'est la vie. Mais disons, JP, bon, on l'a connu grâce à Igort, que c'est un autre auteur italien talentueux, mais qui joue souvent le rôle un peu d'éditeur, entremetteur pour d'autres auteurs. Quand j'ai vu ce que JP faisait, j'en revenais pas, parce qu'il y avait vraiment une alchimie entre ses talents graphiques, sa capacité de dessiner d'une façon hyper simple, mais qui donne plein d'émotions, que j'ai trouvé étonnante et qui est rare à trouver, même chez les bons dessinateurs, disons, des nouvelles générations. Et en même temps, il y avait un contenu, comment pourrait-on dire, qui se voulait petit, simple, souvent familial, des histoires d'humains qui vont pas chercher bien loin d'un point de vue historique ou politique, mais d'une telle profondeur, d'une telle délicatesse, que vraiment, j'ai trouvé ça, que c'était une perle, que c'était une pépite. Et donc, j'ai dit, il faut y aller, il faut. J'ai eu raison parce que j'ai eu l'honneur, le plaisir de pouvoir éditer 3 bouquins de lui. Après, il est passé chez des grands éditeurs qui payent plus vite et mieux. Mais bon, j'ai contribué à le faire connaître le public français. D'ailleurs, après, il a eu aussitôt, une année après, le Grand Prix Angoulême, le prix du meilleur album pour un bouquin édité chez Actes Sud, qui était sur la guerre.
Note sur une histoire de guerre.
Voilà, qui était sur la guerre en Yougoslavie. Et donc là aussi, c'est des rencontres parfois un peu fortuites, parfois cherchées, mais c'est surtout quand les contacts, même humains, il y a dans ces cas-là, les choses peuvent se faire.
C'était donc une émission diffusée au mois de février 2015. J'ai gardé l'ensemble des propos sans les couper. Il y avait une autre partie sur la librairie, mais c'était vraiment ce côté sur l'édition que je voulais vous présenter, vous rappeler, parce qu'elle est d'une très grande importance encore aujourd'hui. Justice Zuccato a pleinement réussi cette transmission de l'art du dessin en tant qu'éditeur et en tant que libraire. Alterlivre continue aujourd'hui avec Samuele et Fanny. Merci, Justice.